Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Les évolutions majeures dans la gouvernance des logiciels libres, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique de Xavier Berne sur les dépenses publiques et en fin d'émission la chronique de Vincent Calame sur la loi de 1901 sur les associations. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Fred Accoucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 2 avril 2024, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion, un podcast. Il est de retour à la réalisation de l'émission après une longue pause, mon collègue Étienne Gonu. Salut Étienne.
Salut Fred, bonne émission.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors pour commencer, nous allons retrouver Xavier Berne, délégué général de la plateforme associative Madada, pour sa chronique sur le droit d'accès aux documents administratifs. Alors Xavier, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Bonjour. Aujourd'hui, la chronique va avoir un petit peu des airs de combien ça coûte, parce qu'on va parler d'argent public et plus particulièrement de dépenses publiques. Alors je sais pas, est-ce que Frédéric, toi tu as une idée un petit peu des sommes qui peuvent être dépensées chaque année par l'État ?
Je dirais quelques centaines de milliards d'euros, mais comme j'ai la réponse sous les yeux, je vais pas aller plus loin.
Ok, je vois que tu triches un petit peu. Effectivement, on est donc à plus de 450 milliards d'euros, par exemple, pour l'année 2023. Donc on est vraiment sur un très gros volume d'argent. Mais voilà, tout cet argent, il permet de financer des routes, des manuels scolaires, les hôpitaux, des aides sociales. Il permet aussi de payer les agents publics qui travaillent dans les commissariats, dans nos mairies, etc., etc. Mais ce qui est souvent compliqué quand on a ce montant sous les yeux, c'est de savoir en gros derrière qu'est-ce qui a coûté combien. Alors certes, l'État publie très régulièrement de nombreuses informations sur ses dépenses et les recettes de son budget annuel. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site budget.gouv.fr, qui est vraiment très, très riche, très documenté. Et puis aussi les collectivités territoriales, notamment les mairies, qui publient aussi des informations. Vous avez peut-être déjà vu ça sous forme de camembert dans les bulletins municipaux que l'on reçoit souvent en fin d'année. Mais on est rarement très avancé face à ces données globales. Si l'on souhaite, par exemple, savoir combien a coûté le dernier ordinateur acheté pour le secrétariat de la mairie, ou s'il y a de grosses différences de salaire entre les différentes personnes qui travaillent au sein d'un même hôpital. Et c'est là qu'entre en piste notre super droit d'accès aux documents administratifs. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre les précédentes chroniques sur ce sujet, je rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs, qui est un droit à valeur constitutionnelle, est un droit qui permet à toute personne d'aller demander des documents publics auprès des administrations, et ça tout à fait gratuitement et sans qu'il ne soit nécessaire de se justifier sur pourquoi est-ce qu'on souhaite obtenir tel document. Et attention, ce droit, c'est très important, il porte sur des documents et non pas sur des informations. Je vais vous donner un exemple qui devrait permettre de bien saisir la nuance. Vous souhaitez par exemple savoir combien coûte grosso modo l'action du chef de l'État au trésor public. Alors n'allez tout vraiment pas poser cette question directement à l'Élysée. Il faut par exemple demander les bulletins de salaire du chef de l'État. Il y en a qui l'ont fait, notamment je crois des associations qui ont réussi, alors c'était un petit peu long, il a fallu saisir le tribunal, mais qui ont finalement réussi à obtenir ces documents-là. Mais vous pouvez aussi demander un petit peu tout ce qui est autour de l'action du chef de l'État, par exemple des factures liées à ses frais professionnels, si on peut les qualifier ainsi, par exemple des éventuels achats de billets d'avion ou des factures de prestataires, comme des fleuristes ou des traiteurs qui j'imagine, interviennent très régulièrement à l'Élysée. Je vous ai donné donc cet exemple pour illustrer les potentialités du droit d'accès, le champ des possibles. Mais pour une information plus complète, sachez que si vous vous penchez vraiment sur des dépenses publiques, il y a deux types de documents qui vont pouvoir vous être utiles. Premièrement, ce sont tous les documents budgétaires. notamment dans les collectivités territoriales, il y a souvent un budget prévisionnel, après un budget adopté, parfois un budget rectificatif. Et voilà, déjà sur ces trois nuances de documents, on peut obtenir des informations, souvent en creux, mais qui sont quand même assez intéressantes. Et il y a tous les documents qui entourent ces documents budgétaires, donc notamment les délibérations et aussi les comptes rendus qui sont très utiles si vous souhaitez comprendre pourquoi les acteurs publics ont décidé telle dépense ou au contraire ont renoncé à faire certains achats. Voilà, tous ces documents-là, ce que je viens de vous citer, sont évidemment des documents administratifs communicables simplement sur demande. Donc voilà, c'était pour la première typologie. La deuxième typologie, ce sont les documents comptables à proprement parler, et qui permettent cette fois d'aller vraiment dans le détail des dépenses. Et typiquement, ce sont le cas des pièces justificatives des dépenses, donc type de dépenses, ou aussi des factures, ou même, pourquoi pas, ça peut être aussi des fiches de paye. On en a parlé tout à l'heure sur le cas du président de la République, et les gens sont souvent surpris, mais oui, vous avez le droit d'obtenir les bulletins de salaire des agents publics. Voilà, c'est un document administratif communicable. Bon, ceci dit, il faut quand même avoir en tête qu'au nom de la protection de la vie privée des agents, il y a des informations qui sont bien évidemment occultées, et notamment des éléments personnels comme l'adresse de l'agent, ou même son nom, mais aussi des éléments qui permettraient de révéler une appréciation qui aurait été portée par un supérieur sur son travail, et par exemple, s'il y a des primes de rendement, elles n'apparaîtront pas sur le document qui vous sera communiqué. Voilà quelques éléments, vous l'aurez compris, si vous êtes un ardent militant du logiciel libre, vous pouvez par exemple aller demander à une administration ses factures de matériel informatique ou plus particulièrement de logiciel. En pratique, faire une demande d'accès, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement simple, surtout si vous utilisez notre plateforme associative Madada. Il faut juste être très vigilant sur la rédaction de votre demande, sur le périmètre des documents que vous sollicitez. Il est vraiment important de préciser que vous souhaitez, par exemple, connaître les factures en logiciel d'une année en particulier, ou, pourquoi pas, des justificatifs d'achat de quelque chose de précis, comme, je sais pas, l'iPad du maire, si vous avez vu que celui-ci en utilisait un à titre professionnel, ou les justificatifs d'achat du logiciel utilisé pour le traitement de texte par les agents de tel ministère, etc., etc. Une fois que vous aurez envoyé votre demande, si vous en faites une, l'administration dispose pour rappel d'un délai d'un mois pour vous répondre, et j'espère que vous obtiendrez gain de cause dans ce délai.
Et précisons que si l'administration ne répond pas au délai d'un mois, on peut saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, qui va étudier la demande, et que, in fine, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour les fiches de paye du chef de l'État, on peut aller en justice si l'administration ne se conforme pas aux avis de la CADA, qui ne sont pas des avis contraignants, c'est ça?
Tout à fait.
Et tout à l'heure, tu parlais des dépenses logicielles. Alors effectivement, ça peut être pratique, mais ça peut être un petit peu compliqué et fastidieux de demander toutes les dépenses logicielles. Je pense qu'il serait bien aussi que l'État, chaque année, publie les dépenses logicielles et les dépenses matérielles. Si on se souvient bien, il y a quelques années, une parlementaire, Isabelle Attard, avait fait un certain nombre de demandes auprès de plusieurs ministères. Ce serait bien que soit la même demande soit faite aujourd'hui par une autre personne du Parlement, soit que l'administration elle-même publie les différentes dépenses logicielles et matérielles, ce qui nous permettrait de savoir où passe effectivement l'argent public. Alors, on va rappeler que la plateforme Madada, c'est... Vas-y, Xavier, si tu veux réagir.
Non, j'allais en profiter pour tendre une petite perche. Sachez que Madada permet aussi de faire des demandes groupées, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un seul formulaire de demande, un seul texte. Si vous demandez par exemple à connaître les dépenses en logiciel, je ne sais pas, de traitement de texte sur une année, vous pouvez à partir de Madada envoyer cette même demande à une multitude d'administrations, et tout ça vraiment en quelques clics, c'est extrêmement rapide. Si vous l'envoyez par exemple à tous les ministères, ou à, pourquoi pas, aux toutes les villes de plus de 10 000 habitants, etc., etc., c'est vraiment quelque chose qui est possible de faire, et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous si vous avez besoin qu'on vous explique un petit peu comment faire, comment procéder. On est là et on sera ravis de vous aider.
Eh ben voilà, c'est super. Donc les personnes peuvent aller sur le site donc de Madada, c'est madada.org, et on y retrouve notamment un certain nombre de tutoriels. .fr, ah, excuse-moi. .fr. Oui. D'accord. Alors je vais mettre à jour mes fiches, donc madada.fr, et sur laquelle on trouve des tutoriels et aussi des modèles de demande, hein. Donc par exemple, par rapport aux dépenses publiques que tu viens d'évoquer, il y a un modèle de demande qui existe et qui est que les personnes peuvent reprendre directement pour faciliter les demandes. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose?
Non, c'est tout bon. Merci.
Eh bien, écoute, merci Xavier. Puis au mois prochain pour la prochaine chronique, donc sur l'accès aux documents administratifs. Et belle journée à toi.
À bientôt, bonne émission.
Merci. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons des évolutions majeures dans la gouvernance des logiciels libres. En attendant, nous allons écouter Outrain par Lumpini. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Outrain par Lumpini, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons au sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur les évolutions majeures dans la gouvernance des logiciels libres avec nos deux invités. Donc Sébastien Dino, qui est à distance, qui se présentera dans quelques instants, et en face de moi, Benjamin Jean, donc au studio, qui donc est à côté de Vincent Calab, qui est en train de triturer son micro pour sa chronique de tout à l'heure. Alors je précise que Sébastien Dino, vous l'avez déjà entendu dans l'émission, c'était l'émission 124 de novembre 2021 sur la libération de code informatique dans le cadre de son activité professionnelle, que vous pouvez retrouver donc sur libreavoue.org/124. Et n'hésitez pas à participer à notre conversation, notamment sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous, ou directement sur le site libreavoue.org. Donc on va déjà vérifier que Sébastien, mais je crois que je l'entends, est avec nous à distance. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour à tous.
Super, ok. Eh bien écoute, on va commencer par la première question traditionnelle pour de présentation rapide. Donc Sébastien Dino, qui es-tu ?
Alors, j'évolue dans l'écosystème du logiciel libre depuis 26 ans. Je travaille désormais pour l'équipe outils de la direction technique de CS Group, une ESN, au sein de laquelle j'accompagne les équipes d'entreprises et leurs clients dans les quatre dimensions techniques, juridiques, communautaires et économiques du logiciel libre. J'anime en outre l'open source programme Office de CS Group, dont j'ai impulsé la création en 2013.
Alors, deux petites questions de précision pour les personnes qui nous écoutent. C'est quoi un ESN, ou une ESN, excuse-moi?
Oui, c'est vrai, il faut éviter les acronymes. Désolé, je commence mal. Une ESN, c'est une entreprise de services du numérique. C'est ce qu'on appelait autrefois une société de services en ingénierie informatique, SS2I.
Voilà, c'est une société qui propose des services informatiques divers et variés à des entreprises, collectivités, voilà, etc. Et deuxième question, c'est quoi, alors vraiment, une phrase, un OSPO, donc Open Source Programme Office?
C'est le comité qui va piloter l'utilisation du logiciel libre dans l'entreprise et les contributions et libérations de code source.
D'accord. Entreprise ou collectivité, on a déjà par exemple.
Ou collectivité, évidemment.
Voilà.
Évidemment.
Voilà. Donc par exemple, on pense à la mairie de Paris, par exemple, qui a un responsable logiciel libre qui est Philippe Bareil, que nous aurons sans doute le plaisir de recevoir bientôt dans un sujet justement consacré à ces bureaux logiciels libres. Et en face de moi, donc Benjamin Jean. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Même question, petite présentation s'il te plaît.
Donc Benjamin Jean, je suis le fondateur et dirigeant d'un cabinet qui s'appelle InnoCube, qui a été créé en 2011. Et qui accompagne tout type d'acteurs, publics et privés, pardon, autour des sujets de, à la fois définition de stratégie open source et mise en œuvre de process politiques internes.
Ok. Alors, je précise aux personnes qui nous écoutent que c'est un peu un défi qu'on s'est lancé, enfin, que j'ai lancé à mes invités, parce que le sujet est très vaste. Je ne sais pas si on va y arriver. Éventuellement, on fera peut-être une deuxième émission. Donc, l'idée départ, en fait, c'est parti de la lecture d'un article de Sébastien, Sébastien Dino, qu'il a publié il y a quelques années, donc, sur les évolutions de la gouvernance de projets libres, dans lequel il liste quatre évolutions selon lui, alors avec lesquelles on peut ne pas forcément être d'accord, et on verra si Benjamin est d'accord ou pas. Et on s'est dit, voilà, on va faire une émission là-dessus, justement, la gouvernance d'un projet libre et ses évolutions. Et la première question, évidemment, que je vous pose à tous les deux, on va commencer par Sébastien, honneur à la personne qui est à distance. C'est quoi, en quelques mots, la gouvernance d'un projet libre?
C'est simple. Un projet libre, c'est un projet collaboratif. Et pour pouvoir s'engager dans un projet collaboratif, on a besoin de connaître les règles et les conditions d'engagement. Ce qu'au niveau de la société, on appelle la constitution, finalement. Et donc, la gouvernance, c'est ce socle de règles et de principes qui vont gouverner le projet et permettre aux gens d'interagir en précisant les modalités de prise de décision et les personnes impliquées dans cette prise de décision.
D'accord. Benjamin, est-ce que tu veux compléter sur la présentation de la gouvernance?
Oui, mais je converge avec ce que disait Sébastien. C'est tout ce qui touche vraiment à la communauté, en tout cas aux humains qui sont derrière les projets libres. Et c'est à la fois les prises de décision qui se sont formalisées sous forme de règles, qui peut intégrer la communauté, quand est-ce qu'on en sort, à quelles conditions, et tous les organes qui permettent de prendre des décisions au cas par cas, lorsqu'il y a besoin justement de revenir à cette subtilité de la prise de décision par des humains.
D'accord, donc c'est une sorte de contrat social entre toutes les personnes qui contribuent au projet. Sébastien, j'ai l'impression que tu veux réagir.
C'est ça, c'est exactement ça. En fait, j'allais le dire. La licence, dont on parle souvent, c'est la dimension juridique du projet, et la gouvernance, c'est sa dimension sociale.
D'accord. Et est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une gouvernance dans un projet libre? Est-ce que tous les projets libres de logiciels libres ont des gouvernances plus ou moins détaillées, hein,
Alors, je ne sais pas si Benjamin veut répondre.
Peut-être Benjamin, vas-y. Benjamin Jean.
Ah, je pense que tous les projets ont une gouvernance qui est plus ou moins formalisée et plus ou moins. C'est toujours la question de la cathédrale du bazar, hein. C'est écrite, mais aussi prévue pour permettre de résoudre des problèmes qu'on a anticipés. Donc ensuite, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Je pense qu'il y a plein de patterns qu'on va retrouver de projet en projet.
De modèles similaires. D'accord.
Voilà. Et après, est-ce qu'ils en ont tous? Tous les grands projets ont une gouvernance, parce que dès qu'on commence à collaborer, dès que beaucoup de gens commencent à collaborer, on a besoin de se mettre d'accord sur tout un tas de points. Par contre, il faut bien avoir à l'esprit que tout un tas, et je pense même presque c'est la majorité des projets libres, sont de tout petits projets qui ont que peu de contributeurs et donc les auteurs ne s'embarrassent pas au départ d'établir une gouvernance. Alors qu'il faudrait qu'ils le fassent dès le départ, ben, au début c'est vraiment pas important, c'est accessoire. Et c'est quand le projet commence à prendre de l'ampleur que là on se dit il y a des points qu'il va falloir caler.
D'accord. Donc ça vise à créer le cadre de coopération finalement de personnes qui sont de nature très différentes, d'être accueillants et de permettre finalement à chacun et chacune de contribuer dans les meilleures conditions possibles à un projet logiciel libre.
Oui. C'est ça, ça vise à établir de la transparence et de la confiance.
D'accord. Sébastien ? Benjamin ?
Oui, ce que j'aurais peut-être ajouté, c'est qu'on part du principe que tous les projets libres ont une gouvernance, mais en fait, il y a des projets pour lesquels il n'y a pas lieu parce qu'il n'y a qu'une seule société qui est derrière qui édite le projet.
Oui,
il y a
un peu ma
qu'un seul individu.
Oui.
Ouais. Et justement, l'absence de gouvernance, ça peut être vu comme un risque. Je pense que dans l'utilisation de logiciels libres open source au sein des organisations, la prise en compte de la dimension communautaire, donc de qui sont les humains et comment sont-ils organisés, c'est important. Et donc l'un des critères, on l'a dans les marchés publics, parfois lorsque des acheteurs publics veulent contribuer et financer des projets libres, l'un des critères, ça peut être y a-t-il une communauté
derrière.
Et quelle est la gouvernance qui a été organisée, qui permet de matérialiser en fait le fonctionnement de la communauté.
Ouais. D'ailleurs, lors des journées du libre éducatif de vendredi dernier, là, qui ont lieu à Créteil, et dont les vidéos sont sans doute disponibles bientôt, c'est ce point effectivement de communauté, de taille de communauté a été évoqué, et l'actualité, alors dont on parlera pas aujourd'hui autour notamment de certains projets libres, mais qu'on parlera sans doute plus tard, est importante quoi. Ok, donc voilà, on a un peu défini ce qu'est la gouvernance d'un projet libre. Et si vous voulez en savoir plus sur un projet en particulier, je vous renvoie à l'émission justement avec Sébastien, le projet Orekit dans le domaine spatial. Donc c'est l'émission 124, donc sur libreavoue.org/124, vous retrouverez le podcast et la transcription. Et là, vous aurez un peu des informations plus détaillées sur la gouvernance particulière d'un projet libre. Donc maintenant, on va aborder l'article de Sébastien, donc qu'on a mis en référence sur le site de l'émission du jour, hein, donc sur libreavoue.org/205, parce que c'est la 205e émission, qui s'appelle « Évolution de la gouvernance des projets libres ». Donc un article que Sébastien a publié sur son blog et qui a fait pas mal réagir, en tout cas que beaucoup de gens ont lu, et moi quand je l'ai lu, effectivement, ça m'a passionné, et dans lequel il évoque en fait quatre évolutions, et on va essayer de les passer en revue, alors plus ou moins rapidement, et plus ou moins dans le détail, évidemment. Et donc le format, ça va être très simple, hein. Je vais demander à Sébastien d'introduire chacun de ces points, alors de façon si possible succincte et compréhensible, notamment le premier, parce que c'est pas le plus simple, le premier. Sachant que voilà, on rappelle qu'on est écouté à la fois par des gens qui connaissent un peu nos sujets, puis par des gens qui ne connaissent pas du tout nos sujets. Et donc tout à l'heure, tu parlais des aspects licence, donc de licence de logiciel libre, donc de droit d'auteur. Et donc la première en fait évolution que tu as vue, c'est l'évolution autour de la contribution, la gestion juridique des contributions au code logiciel libre. Alors, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton sentiment là-dessus, Sébastien?
Oui, parce qu'en fait, la dimension juridique, il y a deux éléments. D'un côté, il y a la licence du code, et dans l'autre, c'est la titularité des droits patrimoniaux. C'est-à-dire que lorsque je contribue à une œuvre portée par un tiers, à qui appartiennent in fine les droits patrimoniaux? Si on ne fait rien, il me reste acquis. Mais peut-être que par le biais d'un document, je vais dire que je les cède au projet. Et puis de manière intermédiaire, si je les garde, ok, je les garde, mais du coup, si on ne prévoit rien, je suis maître à bord et les gens ne peuvent rien faire. Donc il faut que j'affirme que je contribue sous la licence du projet et que je suis d'accord pour diverses choses. Voilà, c'est la façon de gérer, si vous voulez, ce qu'on va pouvoir faire du code et qui va décider ce qu'on va faire du code.
Benjamin, toi le juriste, est-ce que tu veux rajouter quelque chose déjà sur cette introduction ?
Sur DCO, on est...
Non, juste sur l'introduction que vient de faire Sébastien sur la titularité ou c'est des droits.
Non, c'est...
Voilà, sur le fait que notamment quand on produit du code logiciel libre, ça s'intègre dans du droit d'auteur, donc il y a une titularité de droit qu'il faut traiter, qui dépend de si on travaille par exemple pour une structure, etc. Voilà.
C'est ça, sachant qu'il y a la question propriété intellectuelle, donc titularité, tout ce qui vient d'être évoqué à l'instant par Sébastien, et il y a la question responsabilité des projets, parce que l'idée d'un projet libre open source, c'est de pouvoir réutiliser ce qui a été développé par d'autres. Et c'est souvent là que des projets communautaires se mettaient un peu à risque. C'est-à-dire qu'en fait, ils acceptaient possiblement n'importe quelle contribution. Et en le faisant, ils étaient très ouverts, c'était très bien, mais en même temps, ils prenaient beaucoup de risques qu'ils n'étaient pas capables d'assumer. Et à l'inverse, il y a des entreprises qui, ou des, d'autres projets communautaires qui n'acceptaient pas de contribution parce qu'ils ne voulaient pas prendre ces risques. Et donc, bon, l'un des points qu'on va évoquer juste après, c'était comment répondre, finalement, comment essayer de cadrer un peu, limiter ce risque de la réutilisation de ce qui a été développé par les autres, au-delà de la propriété intellectuelle, vraiment en termes de risque.
Sébastien ?
Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Benjamin, c'est qu'effectivement, il y a un risque autour de ça, et le risque qu'il évoque n'est pas le seul. Parce que typiquement, si on prend l'acteur historique, la Free Software Foundation, enfin le premier acteur constitué, on va dire, il exige le transfert des droits patrimoniaux pour être le seul possesseur des droits patrimoniaux. Comme ça, si quelqu'un veut attaquer le projet, ce qui est un risque, et il ne va pas trouver l'élément, le maillon faible de la chaîne et l'attaquer, et du coup couler le projet en attaquant le maillon qui ne peut pas se défendre. La seule personne qui puisse, la seule entité qui puisse attaquer, c'est la Free Software Foundation qui détient tous les droits patrimoniaux. Et elle, elle part du principe qu'elle a les moyens juridiques, humains et financiers de se défendre. Donc c'était un moyen aussi de protéger les projets.
Alors précisons que Free Software Foundation, c'est Fondation pour le logiciel libre, une fondation créée en 1985, formellement, si je me souviens bien.
C'est ça.
Notamment dans le cadre du projet GNU, qui est un projet de création d'un système d'exploitation libre. Donc ça, c'est, ah, donc là, dans ce cadre de cette fondation, il y a ce qu'on appelle un transfert. Je sais pas si, j'ai un peu de mal à parler devant deux experts juridiques parce que je, transfert des droits, notamment de la titularité, qui effectivement, permet en fait à la fondation, s'il y a un souci, de bah, finalement défendre ses droits parce que les droits initiaux des autres personnes qui ont développé lui ont été transférés. C'est bien ça ?
Mmh. C'est ça.
Ok. Et donc dans cette partie-là, donc sur l'aspect juridique, voilà, tu commences justement cette partie-là dans ton article en disant que la plupart des projets libres comptent très peu, voire pas de personnes qui contribuent, et donc les personnes ne perdent pas une précieuse énergie à en structurer le fonctionnement et à en sécuriser sur le plan juridique. Donc peut-être est-ce que tu peux nous faire très rapidement un point sur comment ça a été mis d'abord en place la sécurisation pour les structures qui voulaient le faire et où on en est aujourd'hui. Tout à l'heure, Benjamin a commencé à employer un terme technique qui est Developer Certificate of Origin. Donc, on en était où avant et on en est où maintenant, Sébastien?
Alors, on ne peut pas adresser le problème de manière globale. Il s'adresse projet par projet. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu as des projets qui se créent, qui en sont même pas encore se poser la question de la gestion des contributions. Et puis, il y a des projets qui existent depuis 25 ans, qui, eux, sont très matures sur le sujet et ont même connu l'épreuve du feu. Par contre, il y a trois moyens de gérer, à partir du moment où on commence à, on souhaite les gérer, ces droits, ces contributions sur, à partir du moment où on commence à vouloir, gérer la titularité des droits sur les contributions, il y a trois stratégies. Il y a celle dont je parlais tout à l'heure, qui est le copyright assignment, donc le transfert des droits patrimoniaux, à l'entité qui porte le projet. Donc, moi, en plus de ma contribution, je vais céder mes droits à l'entité qui porte le projet. Et je n'ai plus aucun droit sur ma contribution. Est venue ensuite une approche qui, historiquement, a plutôt été portée par un autre acteur du livre, qui est la Fondation Apache, qui elle s'est dit non, on va laisser, chaque contributeur va garder ses droits parce que finalement la cession, c'est clivant, ça pose des problèmes, les gens sont pas d'accord. Donc chaque acteur va garder ses droits. Par contre, les gens vont signer un accord de contribution qui sécurise le projet. Alors cet accord de contribution, dans la pratique, il prend souvent la forme de deux documents. Un qui est adressé au contributeur, dans lequel il stipule qu'il est l'auteur de la contribution, qu'il est d'accord pour verser cette contribution au projet sous la licence du projet, et que voilà, il a pris un certain nombre de précautions. Et le second document s'adresse à son employeur, qui indique qu'il est au courant de cette contribution et qu'il l'accepte. Et quand le projet reçoit ces deux documents, eh bien, il est sécurisé sur le plan juridique, il sait qu'il peut intégrer ce code sans problème, et donc il l'intègre. Ça, c'était, pendant longtemps, ça a été les deux modes qui existaient, hormis dans le cas très particulier du noyau Linux, où là, ils n'ont pas voulu s'embêter avec un accord aussi formel. Ils ont décidé d'utiliser une forme très simplifiée qu'on appelle le Developer Certificate of Origin, donc un certificat d'origine du développeur, hein, pour dire en français, qu'on appelle donc DCO. Et pendant des années, le noyau Linux a quasiment été le seul projet à utiliser ce DCO. Puis finalement, les autres projets se sont dit, mais c'est pas mal parce que les autres modes de contribution posent des problèmes. Et donc, on va adopter le DCO. Et de plus en plus de projets, à mon sens, adoptent le DCO.
Alors, qu'est-ce que pense le juriste qu'est Benjamin Jean de ces évolutions, et puis au final de ce certificat d'origine du développement DCO?
Alors, moi, j'ai pas d'éléments de chiffres hein, sur l'évolution. Je ne saurais pas dire s'il y a aujourd'hui plus, en tout cas moins.
Non, mais sur l'aspect juridique.
Sur cette partie-là, je pense qu'effectivement, le noyau Linux, c'était un projet qui, dès le début, était parti sur le principe qu'il n'y avait pas de cession de droit. Donc, globalement, chaque contributeur au projet détient ses propres droits de propriété intellectuelle. Et l'avantage de ce modèle-là, c'est que les droits sont complètement dispersés et personne ne peut faire un autre usage du noyau Linux que selon la licence du noyau. Donc, c'est l'avantage de, on divise les forces. Mais en faisant comme ça, finalement, on est sûr qu'il n'y a pas de réappropriation par l'un ou par l'autre, qui a toujours le danger un peu craint par tout le monde. En revanche, ils ont vu qu'il y avait un risque, je reviens à la question de la responsabilité, lié au fait d'utiliser les contributions, d'intégrer dans le projet des contributions qui ont été développées par des personnes qui ne connaissaient pas, et qui, même si parfois elles étaient de bonne volonté, ne comprenaient pas tous les enjeux non plus. Et le DCO, ça sert à ça. C'est vraiment, pour moi, cette idée de on accepte votre contribution, mais à minima, on vous demande de comprendre les enjeux sous-jacents si vous n'êtes pas le seul auteur d'avoir obtenu les autorisations. Donc, la valeur juridique d'un DCO, elle est moindre que celle d'un contrat du type CLA ou CIA, mais elle a l'avantage de limiter, de réduire les risques. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de projets qui ne savaient pas trop comment adresser ce sujet. Parfois, pour limiter les risques, faisait signer un CLA ou un
CLS.
Pardon.
En français.
Les accords qu'évoquait tout à l'heure Sébastien. Donc, soit des sessions exclusives, soit des sessions exclusives de droit. Et en fait, c'était pas la bonne solution. C'est-à-dire qu'ils avaient un problème, ils n'avaient pas l'outil pour résoudre ce problème-là. Et donc ce DCO, c'est un outil qui permet au moins d'écrire les choses et de faire en sorte que les gens comprennent. C'est plus à cet ordre-là. Les gens comprennent ce à quoi ils consentent.
Alors, avant, j'ai une question, mais je vais quand même préciser pour les gens qui nous écoutent, on parle du noyau Linux, on ne va pas rentrer dans le détail, c'est un noyau de système d'exploitation, mais sachez que ce noyau est présent, vous l'utilisez quelque part, parce qu'en fait, il est présent sur Internet, il est présent dans les machines Android, il est présent souvent sur vos voitures maintenant, etc. Enfin, c'est quelque chose qui aujourd'hui est supporté et développé par des industriels, etc. Donc, c'est un très, 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 très gros projet. J'avais une question, en fait, c'est le but finalement, si je comprends bien de ce DCO, donc de ce certificat d'origine de développement, c'est de faciliter les contributions pour des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des paperasses. Parce qu'en fait, quand on veut développer un logiciel ou qu'on veut contribuer, peut-être qu'on n'a pas envie de faire plein de paperasses, donc signer un papier, l'envoyer à une fondation, etc. Est-ce que c'est le but, c'est vraiment de faciliter la contribution, tout en, avec le risque de limiter quand même la validité, pas la validité juridique, mais les garanties peut-être?
Oui.
Oui, enfin, Sébastien.
C'est exactement ça. C'est introduire de la fluidité dans le processus, sachant que la signature des CLA et CCLA, enfin donc des accords de contribution classiques, eh bien souvent se heurte à la méconnaissance des entreprises. Et quand un employé va dire j'ai besoin que vous me signiez cet accord, tout de suite ça part vers le service juridique qui ne comprend pas d'où vient ce document, à quoi il correspond. Il faut qu'il étudie le sujet. Et ça va introduire beaucoup d'inertie. Et même si au final, la hiérarchie est d'accord, le service juridique donne son feu vert et tout ça, on va introduire parfois des semaines, voire des mois, pour obtenir l'accord. Ce qui n'est pas compatible avec la temporalité d'un projet libre qui évolue au quotidien.
Alors ça me fait venir à une question ou une demande de précision donc à Benjamin, parce que beaucoup de gens sans doute l'ignorent, quand on travaille pour une structure, qu'elle soit une entreprise, une collectivité, en France en tout cas, par défaut, il y a un transfert automatique des droits, de titularité des droits patrimoniaux de la personne qui développe à l'entreprise ou à la collectivité, ce qui nécessite, ou à l'association.
L'employeur.
À l'employeur, voilà, l'employeur, ouais. Effectivement. Voilà, le juriste, direct, à l'employeur. Donc ça effectivement, ça suppose que si on veut contribuer sur un projet logiciel libre, et même en dehors de son temps libre, même sur son temps libre, en fait, il faut s'assurer de prouver que c'est sur son temps libre, et que c'est sur son temps de travail, il faut l'autorisation de l'employeur. C'est ce qu'en fait implique ces mécanismes.
C'est pour ça que le contrat dont parlait Sébastien, CLA ou CA, à chaque fois, il y a deux versions, une version employée, une version employeur. Et souvent, c'est quasiment les mêmes textes, et on est sûr, en faisant signer les deux, l'employé et l'employeur, on est sûr qu'il y a bien tous les droits qui sont cédés au projet. Et moi, ce que je rajouterais, donc, pour moi, il y a effectivement cette idée de on va fluidifier, mais il y a quand même plein de projets qui auparavant n'avaient qu'une licence libre. Typiquement, le noyau Linux, c'était uniquement la licence GPL, et ça suffisait.
Et la version 2 en plus, une seule.
Oui.
Avec une version précise.
Ouais, ça simplifie pas. Bon. Mais donc, une seule licence, et ça leur suffisait. Le DCO, ça a été Il y a un risque. En fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que le noyau Linux est utilisé de partout, par tout type d'acteurs, de plus en plus industriels. Donc, il y a des enjeux aussi juridiques et métiers qui sont compris et qui sont gérés, je pense, de mieux en mieux. Et ça a été, je pense, une réponse pour sécuriser, donc pour faciliter l'emploi du noyau Linux dans n'importe quel type de matériel embarqué. Et cette logique de, on a de plus en plus d'usages industriels d'open source, et donc on veut que les enjeux juridiques soient de mieux en mieux traités. Pour moi, c'est aussi ce qui explique la tendance. Et peut-être en complément de ça, il y a un autre projet auquel je pense, mais qui montre cette idée-là, c'est le projet Reuse Software de la Free Software Foundation Europe, donc une autre fondation européenne, qui, elle, a juste donné des recommandations dans la manière d'appliquer les mentions légales, les licences qu'on impose donc, où est-ce qu'on met le fichier licence dans le logiciel, avec le logiciel qu'on partage, quel type de mention on indique, ainsi de suite. Et ça, pareil, c'est des choses qui sont, en fait, qui norment de plus en plus, alors avec les avantages et les inconvénients de cette standardisation, mais qui permettent de faciliter l'usage par n'importe quel type d'acteurs, notamment les industriels.
D'accord. Sébastien, est-ce que tu veux réagir là-dessus avant qu'on enchaîne sur la deuxième point, parce qu'on
il a dit l'essentiel, donc juste une petite précision. Pas plus que Benjamin, j'ai des statistiques précises. Par contre, ce dont je peux attester, c'est que beaucoup de projets d'envergure, alors je pense par exemple à GitLab ou carrément à Red Hat, qui a une approche globale pour tous ces projets, ont basculé historiquement d'accords de contribution formels à un DCO. Ils ont abandonné les SLA au profit de DCO. Et ça, c'est vraiment un signe, je trouve, important. En fait. Voilà.
D'accord. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail sur ce qu'est GitLab, Red Hat, mais on voit en tout cas sur ce premier point que ce certificat d'origine du développement prend de plus en plus d'envergure, en tout cas selon vous. Et là, vous étiez plus ou moins assez d'accord. On va enchaîner sur le deuxième point parce que vous avez parlé de licence, mais dans le monde du logiciel libre, il y a différents types de licences et qui ont des implications totalement différentes, en fait. Il y a ce qu'on appelle les licences permissives et toi, ce que tu appelles...
Sébastien,
les licences diffusives. Et tu dis que donc ton deuxième point, c'est qu'une popularité croissante des licences permissives au détriment des licences diffusives. Alors, bien entendu, ma première question, c'est quoi une licence permissive et c'est quoi une licence diffusive? Sébastien, dis-moi.
C'est moi que tu vas stresser là parce que Benjamin nous écoute. Mais alors c'est simple. En fait, les licences, il y en a des centaines et d'ailleurs les ennemis du libre se servent parfois de cette caractéristique comme un oripeau pour dire regardez c'est atroce, c'est complexe le libre. Mais en fait, quand on aborde le problème sereinement, on s'aperçoit que ces centaines de licences peuvent être réduites à trois catégories qui permettent de savoir assez facilement finalement ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on a l'obligation de faire, ce qu'on ne pourra pas faire. On a les licences permissives qui sont des licences qui... Je vais prendre le problème autrement. En fait, il y a trois cas de figure. Le problème, c'est quand vous décidez de faire un logiciel libre, vous en faites... vous écrivez un logiciel, vous publiez, vous dites il est sous licence libre. Ok, super. Par contre, un tiers décide de prendre votre logiciel libre et d'en faire une version différente qui, elle, va être propriétaire. Quelle peut être votre réaction par rapport à cet événement? Eh bien, vous pouvez décider que vous en moquez. Vous faites du libre, si lui ne veut pas faire du libre, tant pis pour lui, il fait ce qu'il veut. A contrario, vous pouvez vous dire « Non, mais moi, je suis dans une logique de pot commun qui doit s'enrichir. Et donc, je veux que si vous utilisiez mon logiciel et que vous l'améliorez, votre version soit sous la même licence que mon logiciel. » Et puis, vous avez une position médiane, alors qu'on appelle... qui s'applique essentiellement à ce qu'on appelle les bibliothèques. Alors, les bibliothèques, comment dire? C'est un ensemble de fonctions prêtes à l'emploi pour une application. Pour pas réécrire N fois les mêmes choses, on va regrouper des fonctions utiles et courantes dans ce qu'on appelle une bibliothèque, et chaque application va utiliser ces bibliothèques. Eh bien, la position médiane consiste à dire, eh bien, si vous faites une version améliorée de ma bibliothèque, votre version doit être sous la même licence que la mienne. Par contre, si vous faites une application qui utilise ma bibliothèque. Ça, ce n'est pas mon travail, c'est le vôtre et c'est à vous de choisir la licence. Donc, on a trois types de licences. Licences diffusives, permissives, qui sont, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. À l'opposé, nous avons les licences fortement diffusives qui sont celles du pot commun qui ne peut que grossir. Et au milieu, nous avons les licences faiblement diffusives qui sont ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de la bibliothèque et d'application.
Écoute, moi ça me paraît assez clair, mais bon, on va demander au juriste en face de nous si déjà bon, il est d'accord avec ça, puisqu'il en pense aussi sur ces trois... Avant de voir justement la popularité de ces différents types de licences.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai qu'après, les termes que chacun utilise voilà. pour décrire ces différentes catégories de licences sont pas forcément les mêmes.
Alors, quel terme toi tu utilises pour les licences que Sébastien appelle diffusives?
Moi, pour tout ce qui est licence copyleft, j'utilise surtout à réciprocité.
Voilà. Alors, tu peux peut-être rappeler, parce que là tu veux dire copyleft, d'où ça vient oui. ce terme
alors,
en fait.
Donc, cette notion de licence copyleft, c'est un jeu de mots, hein, left pour... copyright, copyleft, et aussi cette idée d'abandonner le copyright et de d'utiliser le copyright d'une manière contraire à peut-être l'idée avec laquelle il est apparu. Et donc l'idée du copyleft, c'est ce principe de je partage, mais je demande à ce que chaque personne qui vient modifier et réutiliser mon projet partage à son tour. Et c'est ensuite avec le distinguo que Sébastien rappelait. C'est-à-dire, soit on est, alors moi je parle plus de licence à réciprocité, mais donc on est dans une réciprocité large. Toute évolution qui sera faite sur mon code doit être diffusée selon les mêmes termes. C'est très contraignant, mais bon, cela dit, vous pouvez ne pas utiliser mon logiciel. Soit on est sous une licence à réciprocité faible, seulement les modifications qui sont faites au code lui-même doivent être versées selon les mêmes termes, mais toute amélioration qui serait dans des plugins, dans des applications tierces qui utiliseraient mon propre programme, elles peuvent être sous d'autres licences. Donc c'est deux manières de penser cette logique de réciprocité. Oui.
Oui, et dans le monde du logiciel libre, je ne sais pas si c'est une opposition, mais en tout cas cette façon de voir qui est très différente entre les licences permissives et les licences diffusives ou à réciprocité en fonction de comment on l'appelle, c'est historique, hein, c'est depuis très très longtemps en fait. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, visiblement, selon en tout cas Sébastien, peut-être toi, je ne sais pas, il y a une évolution par rapport à la popularité de ces licences. Alors, est-ce que cette évolution est réelle? À quoi elle serait liée? Sébastien, déjà, selon toi, quelle est cette évolution? Est-ce qu'il y a un historique, une licence qui diminue, une autre qui prend de l'ampleur, enfin, famille de licences?
Ben, je me souviens que quand j'ai commencé dans Libre, le projet GNU, donc le projet qui est porté par la Free Software Foundation, dont on parlait au début, était quand même prédominant. Et dans mon quotidien, beaucoup d'outils que j'utilisais étaient issus du projet GNU. Et la licence, la Free Software Foundation est dans l'optique d'avoir un pot commun qui ne fait que croître. Donc, elle a publié une licence fortement diffusive très connue qui s'appelle la GNU GPL, puis une faiblement diffusive qui s'appelle la LGPL, donc Lesser GPL. Et voilà, ils n'ont que ce type de licence-là. Et moi, je me souviens qu'au quotidien, dans mon environnement, j'avais essentiellement des projets sous licence GNU-GPL ou LGPL. Et puis, au fil du temps, j'ai vu apparaître des projets poussés par d'autres entités qui étaient sous des licences permissives. Alors, historiquement, bien sûr, il y a tous les projets de la sphère Apache, mais j'ai vu de plus en plus de projets permissifs, enfin avec des licences permissives émerger. Et même dans les outils que j'utilisais au quotidien dans mon environnement, je me suis aperçu que les outils historiques étaient remplacés ou étaient concurrencés par de nouveaux outils qui étaient sous ces licences permissives. Alors, comment j'explique moi ce mouvement? C'est que, en tant que militant du libre au départ, moi, les licences faiblement et fortement diffusives ou à forte réciprocité me conviennent parfaitement. Pour les entreprises, c'est un peu plus problématique d'une part, parce qu'elles veulent bien utiliser du libre, mais pas forcément en publier en retour le code source de leur application. Et puis, il y a une tragédie avec les licences fortement diffusives. C'est qu'elles sont exigeantes. Elles sont exigeantes parce que elles sont très contraignantes et donc très vite, elles deviennent incompatibles entre elles. Et ce que je trouve tragique, c'est que on a des licences diffusives qui sont plus facilement compatibles avec des licences propriétaires qu'entre elles. Et ça entraîne une complexité juridique. Et on a vu apparaître des composants qui étaient à peu près équivalents, mais dans des îlots, ce que j'appelle des îlots juridiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un outil qui était plutôt dans l'îlot juridique GPL, un autre outil qui était plutôt dans l'îlot juridique Eclipse Public License, un autre qui était ailleurs. Et donc, on a une duplication d'efforts. Et il y a une complexité à prendre en compte. Ah, je ne peux pas utiliser ce logiciel parce qu'il ne va pas être compatible. Et du point de vue du développeur qui veut assembler des composants pour en faire quelque chose d'autre, les licences permissives de ce côté-là sont beaucoup plus faciles parce qu'elles sont beaucoup plus accommodantes. Voilà. Et c'est ce qui, selon moi, fait que de plus en plus d'acteurs choisissent les licences permissives.
D'accord. Alors, on va voir le point de vue de Benjamin Jean, qui, on va le rappeler, donc, qui est fondateur et président d'un cabinet de conseil spécialiste des modèles ouverts, dans lequel je suppose, tu as une clientèle qui se pose ces questions-là, peut-être, et qui au quotidien, doit traiter effectivement des projets logiciels libres à base de licences permissives, à réciprocité pour ta formulation. De ton point de vue, enfin de ta vision effectivement de cabinet de conseil, comment tu vois les évolutions récentes, comment tu les expliques, est-ce que tu es d'accord avec cette évolution décrite par Sébastien déjà?
Moi, j'aurais pas présenté comme ça.
Présente-la, vas-y.
Ce que je sens, c'est que la manière dont on développe un logiciel aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec la manière dont on développait des logiciels il y a 20 ans, et qu'effectivement, on est beaucoup plus dans une modularité ou une granularité très fine, alors qu'on développe des petits logiciels qui vont venir compléter d'autres logiciels ou frameworks, donc ensemble de logiciels préexistants, et que dans cette logique-là, on a un intérêt très fort à être réutilisé par un ensemble plus large, et donc effectivement, on est plus sur des licences qui sont des licences permissives, dans la majorité des cas. Néanmoins, et donc auparavant, on était plus dans des applications qui fonctionnaient presque en standalone, c'est-à-dire une application tout en un. On l'installait, elle fonctionnait et on avait développé et on contrôlait tout le code. Néanmoins, il y a encore des logiciels qui fonctionnent comme ça, qui sont monolithiques, pas forcément, mais qui sont assez importants pour avoir une réflexion du même type et pour lesquels on peut toujours, en tout cas, nous, ça nous arrive fréquemment, avoir ces réflexions quant à l'usage d'une licence à réciprocité, étendue ou pas. Et dans ce cas-là, l'avantage la situation que je vois, c'est qu'aujourd'hui, en termes de licences, c'est quand même beaucoup plus facile aussi, parce qu'avant, lorsqu'on utilisait des licences très contraignantes, il y avait des risques, on n'a pas parlé, on va peut-être pas rentrer dans le sujet, mais d'incompatibilité. C'est-à-dire que les licences entre elles se contredisaient et en fait, on pouvait pas faire ce qu'on voulait, voire on empêchait les autres personnes de réutiliser notre code, ce qu'on veut pas quand on fait l'open source. Donc, ces situations d'incompatibilité, elles ont été majoritairement levées. Donc, toutes les licences quasiment copyleft à réciprocité ont évolué dans une version 2, une version 3 pour intégrer des dispositifs de compatibilité. Donc maintenant, on peut le faire. Je fais très simple, je rentre pas dans la...
Oui, on va pas rentrer dans le détail. Mais tout à l'heure, quand je faisais référence au fait que le Linux est sous une version 2 de la GNU GPL, aujourd'hui la GNU GPL est la version 3 et on peut imaginer que dans les années à venir, il y aura une nouvelle version pour tenir compte de l'évolution technique et juridique.
Et d'ailleurs, dans la version 3 de la GPL, il y a une compatibilité simplifiée qui plaît à Linstorvald et au projet Linux, sauf qu'il y avait d'autres évolutions qui ne lui plaisaient pas. C'est la raison pour laquelle ils sont restés bloqués pour l'instant sur la V2. Et donc, ce que j'allais dire d'un point de vue purement réflexion des projets quant au choix de la licence, moi, j'ai vu des situations dans lesquelles des industriels ou des collectivités ont même dernièrement favorisé des logiques copyleft, donc à réciprocité, parce que pour eux, c'était une manière de s'assurer que tout ce qu'ils avaient fait serait effectivement la base d'un commun, donc la base on partage, mais on attend aussi de toutes les personnes qui vont réutiliser, améliorer et redistribuer le code, qui participent à l'effort commun. Et j'ai même vu donc des acteurs qui, chez eux, interdisent par pratique l'utilisation de tout logiciel ou composant sous licence GPL ou Affero GPL, donc une licence très contraignante, et qui là se sont vus dans la situation un peu différente en se disant ça en fait, quand c'est nous qui choisissons, on a plutôt envie que les autres y soient contraints, et ça va pas les empêcher de... C'est pas un grain très fin qui va faire que ce grain ne sera pas utilisé et que les gens viseront plutôt l'utilisation d'un autre. C'est un logiciel qui est complet, et donc en fait, mettre une licence très contraignante, ça a du sens. Et pour finir, l'un des enjeux que je vois, mais qui n'est pas tout à fait celui qu'on vient d'évoquer, mais qui pour moi est de plus en plus présent quand même, prégnant, c'est la sortie de la définition de l'open source. Alors, il y a de plus en plus, il y a un certain nombre de projets d'éditeurs de logiciels libres open source qui changent leur licence open source pour une licence qui sont dites fair source, ou en tout cas qui... Et ça, je trouve que c'est une évolution aujourd'hui, qui est très proche des enjeux de gouvernance qu'on a évoqués, Parce qu'en fait, une seule personne a la capacité de sortir du projet, soit parce qu'elle a la titularité des droits, soit parce qu'elle est le contributeur principal et qu'elle peut choisir de détourner complètement le projet de ses objectifs. Et donc moi, un élément intéressant que je trouve à mettre sur la table, c'est ce nouveau type de licence de plus en plus présent qui sort de l'open source et qui pose des vraies difficultés après au quotidien, parce que là il y a une vraie... C'est vraiment deux écoles différentes entre les tenants des logiciels libres open source et surtout des sociétés qui considèrent qu'elles peuvent faire presque de l'open source. Ça a la même apparence, ça y ressemble, mais c'est pas la même chose.
C'est peut-être pour ça qu'il faut préférer le terme logiciel libre, qui est beaucoup plus strict. Mais bon. Si tu veux réagir, Sébastien, avant qu'on aborde le troisième point, parce que en fait, le temps passe super vite, mais c'est passionnant ce que je vous expliquais. Donc très vite, Sébastien.
Très vite. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Benjamin. Ça ne semble pas contradictoire avec ce que je disais. Il est vrai que si on est sur des applications monolithiques qui se suffisent à elles-mêmes, la problématique de la diffusivité est marginale. C'est à partir du moment où on a des composants et qu'on commence à intégrer beaucoup de composants, grosso modo, on est en présence d'un Lego et qu'on prend plein de briques pour construire le mur qu'on est en train de construire ou la grue qu'on est en train de construire, que là, se pose le problème de la compatibilité.
D'accord. Alors, on va passer au troisième point. On va essayer de tenir le défi de tout faire. Donc, on ne fait pas de pause musicale pour les personnes habituées à nous écouter. On va continuer comme ça. Donc, le troisième point, c'est la poussée démocratique dans les gouvernances. Donc, on va rappeler qu'en introduction, on a rappelé que la gouvernance d'un projet fait connaître à toute personne s'intéressant au projet ses conditions de collaboration et d'engagement. Et ton troisième point, Sébastien, dans ton article, c'est que tu vois un recul des modèles de gouvernance historiques. Alors, méritocratie et dictateur, dictatrice bienveillante à vie, au profit d'un modèle démocratique instaurant une plus grande fluidité temporelle des pouvoirs. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton point de vue en quelques instants ?
Oui, c'est simple. Les gouvernances, il y en a presque autant que de projets, mais quand on les analyse, elles diffèrent essentiellement par des détails, des choix de vocabulaire ou autres, des règles particulières, mais dans l'esprit, il y a deux modèles dominants. Il y a un modèle dit « dictateur bienveillant à vie », donc là, c'est une personne, comme son nom l'indique, qui concentre tous les pouvoirs et a, in fine, décide de tout, on va dire. Et face à... Alors c'est un modèle, vous en doutez, clivant. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les dictateurs. Pour que ça fonctionne dans un projet collaboratif, il faut que la personne fasse preuve d'un certain nombre de qualités humaines qu'on rencontre rarement au sein d'une même personne. Donc ces projets, comme ça, quand ils sont pilotés de cette manière-là, ils ont tendance à être clivants et à provoquer des discordes et du coup, on va assister à ce qu'on appelle des forks. C'est-à-dire qu'en fait, une partie des contributeurs va dire, ben moi, puisque le code source, j'ai le droit de l'utiliser, je prends une copie du code source et je vais en faire un projet plus consensuel ailleurs qui va plus dans mon sens. Ce qui est regrettable pour tout le monde, parce que c'est une dissipation des efforts. Voilà. À côté de ça, on a un autre modèle historique qui est la méritocratie, qui, comparé au BDFL, semble vraiment vertueux, parce que, grosso modo, ça consiste à confier le pouvoir aux gens, déjà à le distribuer entre plusieurs personnes, et à leur octroyer du pouvoir aux personnes en fonction de leur implication, de leur mérite dans le projet. Et là, on se dit, ah bah voilà, ça c'est sain au moins. On a des gens qui sont méritants et qui ont montré que on pouvait qui sont devenus des personnes qui comptent pour le projet. Alors ça, oui, effectivement, comme ça, ça a l'air sympa. Mais le seul problème, c'est que la méritocratie, elle résiste mal à l'usure du temps. Parce qu'en fait, finalement, on ne remet jamais en cause le pouvoir des gens. Et on connaît tous des projets, par exemple l'ancien serveur X, où des gens qui, à un instant donné, ne font plus rien pour le projet, sont vraiment passifs, décident et entendent bien imposer leur vue au sein des comités, alors qu'ils ne font plus rien, et de jeunes développeurs qui, eux, sont très actifs et font que le projet continue à vivre, eh bien, finalement, on considère que ce sont de jeunes égaux et tout, donc on les écoute pas vraiment. Et donc, la méritocratie crée des systèmes de caste, d'oligarchie, qui ont déplu à pas mal de personnes. Et donc, ces dernières années, on a vu arriver un troisième modèle qui émerge, je trouve, vraiment de manière assez massive dans les nouveaux projets, qui est une approche plus démocratique, plus libéral, les Américains disent libéral, où on va, comme je l'ai indiqué dans mon article, organiser une fluidité temporelle des pouvoirs en organisant des élections, des mandats à durée préétablie. Et là, Frédéric, toi qui es un fin connaisseur du libre, tu vas me dire, et Debian. Eh bien, justement, Debian était l'exception. Pendant longtemps, avec son contrat social, c'était l'exception. Et ça faisait même sourire beaucoup de gens. Et aujourd'hui, finalement, Debian a quelque part montré la voie et on voit de plus en plus de projets qui adoptent ce type de fonctionnement.
D'accord, donc un fonctionnement plus démocratique qui finalement donne le pouvoir à ceux qui font actuellement plutôt qu'à aux personnes qui étaient là depuis longtemps et qui s'accrochent au pouvoir. Benjamin, qu'est-ce que tu penses, toi, sur ces évolutions-là ? Quel est ton point de vue ?
Je réfléchis en même temps. En phase, je pense que c'est aussi parce que le numérique prend une part de plus en plus importante dans notre quotidien, que les utilisateurs des logiciels souhaitent prendre part aussi aux projets qu'ils utilisent, notamment pour intégrer leur gouvernance. Et je pense aussi que ça demande de repenser, en tout cas ça amène à repenser le rôle et fonction des différents projets, et notamment des questions sur la diversité, aussi sur les genres, sur plein d'enjeux qu'on n'avait pas auparavant.
Comme l'ajout par exemple de code de conduite les projets ou dans les fondations, relativement récent. Ça date de quelques années, mais ça reste récent.
Ça reste récent et c'est justement, je trouve, cette évolution des communautés pour prendre en compte la dimension sociale qui est autour d'eux, mais qui leur demande de se transformer aussi, parce que des développeurs qui travaillent ensemble ne travaillent pas de la même manière que si on met en face d'eux des designers, des juristes ou d'autres acteurs qui veulent aussi pouvoir contribuer à cette phase, notamment du projet. Et ça, c'est un peu plus douloureux, parce que les personnes ne sont pas encore... en tout cas, tout le monde apprend sur le tas. C'est une réflexion qui me venait, et j'en profite, je fais juste c'est pas une aparté parce que c'est un peu sur ce sujet là on organise la semaine prochaine à l'ENSI, donc une école de design à Paris, un colloque qui s'appelle Design et droit pour les communautés, mais qui vise justement à faire un peu essayer de trouver les jonctions, les points d'intersection entre les pratiques et les acteurs du design, les pratiques et les acteurs du droit et celles des communautés, pour comprendre comment mieux s'interfacer finalement, parce que c'est des acteurs qui peuvent s'apporter mutuellement, mais qui ont des vraies difficultés à ne serait-ce qu'à échanger et à produire ensemble, parce que produire du code c'est bien, mais si on peut produire quelque chose qui est utilisé qui répond à nos besoins profonds, c'est encore mieux.
Alors, j'ai une question, Benjamin, par rapport à ça. Est-ce que tu penses que ces évolutions, notamment vers plus, entre guillemets, de démocratie dans les fondations, ça vient aussi, et surtout de la part des jeunes qui arrivent, alors jeunes entre guillemets, que ce soit des développeurs, développeuses, des personnes qui font du design, qui ont envie, en fait, quelque part, de dire aux anciens, laissez la place, votre mode de fonctionnement dictateur, bienveillant à vie, ça nous convient pas. Est-ce qu'on sent une poussée, quelque part, à ce niveau-là ?
Alors, je pense que c'est générationnel, effectivement.
Oui,
complètement, c'est générationnel. C'est pas que le fait qu'il y ait ces nouveaux qui entrent, mais c'est la société évolue et maintenant, je trouve que c'est une bonne chose.
Est-ce qu'il y a des fondations ou des projets qui l'acceptent plus facilement ? Est-ce qu'il y a des gens, à contrario, est-ce qu'il y a des fondations qui s'accrochent à leur fonctionnement ancien ? Benjamin ou peut-être Sébastien,
Sébastien ? Oui, il y a des... Alors, on va empiéter sur le point suivant.
Et on enchaîne, c'est très bien, tu vois.
Voilà, très bien. Mais effectivement, typiquement, la fondation NumFocus... sans l'exiger.
Alors, c'est quoi le NumFocus en un mot, c'est quoi ?
C'est une fondation qui promeut la recherche ouverte et l'informatique scientifique à la base.
D'accord, ok.
Et donc, qui prend sous son ombrelle tout un tas de projets en lien direct ou indirect avec la recherche. Voilà. Et l'informatique scientifique. Et en fait, cette fondation. Promeut le modèle démocratique. Sans l'imposer, toutefois. Par contre, elle va imposer un code de conduite, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, elle va imposer un code de conduite, la preuve que le projet est ouvert et bienveillant, accueillant, enfin voilà, inclusif. Donc tout un tas d'exigences dont vous parliez, donc évoquait Benjamin, par rapport aux attentes de la société, et sur la base de communautés beaucoup plus larges.
D'accord. Excuse-moi, je lisais mon papier pour le...
Ah d'accord. Il fait me prévenir, j'aurais rajouté 2-3 phrases.
Non, mais ça prouve que je prépare quand même l'émission. Donc là, effectivement, je vois le temps aussi qui file. Ça nous permet aussi d'enchaîner sur le quatrième point de ton article. C'est donc l'émergence de nouvelles fondations qui incarnent les changements dont on vient un petit peu d'évoquer, et par conséquent une perte d'influence d'acteurs historiques tels que les structures qu'on a déjà citées, comme la Free Software Foundation, la fondation pour le logiciel libre, la fondation Apache qui couvre un certain nombre de logiciels libres. Alors c'est quoi ces nouvelles fondations? Tu viens de commencer à l'évoquer avec NumFocus, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier?
Alors ma vision, alors là c'est une vision très personnelle de la chose, c'est mon interprétation. J'identifie trois générations de fondations. La première, elle a été essentielle au mouvement, elle a, on va dire, théorisé, elle a formalisé le libre, et elle a permis la construction du libre en tant qu'écosystème. Elle a incarné. Mais ce faisant, focalisée sur le libre en tant qu'objet, elle ne s'est absolument pas intéressée aux acteurs. Et ça, aux gens, enfin aux structures, aux entités qui au quotidien faisaient le libre. Et ça, ça ne plaisait pas aux entreprises qui entendaient bien avoir un retour de leur investissement, soit des services, soit un droit à la parole, des choses comme ça. Donc on a vu apparaître plus tard une seconde génération de fondations. Alors dans les premières, je mets par exemple la fondation, la Free Software Foundation, la fondation Apache, l'Open Source Initiative. Puis on a vu arriver une seconde génération de fondations qui s'adressait plus aux entreprises et qui, en échange d'une cotisation qui souvent n'a rien de symbolique, propose des services aux entreprises. Donc ça peut être de l'hébergement, de l'accompagnement juridique, de l'accompagnement marketing, enfin tout un tas de services. Donc parmi ces fondations, on voit, j'identifie la Linux Foundation, la fondation Eclipse, OW2, des choses comme ça. Et ce sont des fondations qui sont finalement très orientées business. Donc on avait une première génération orientée concept, une seconde orientée business, mais là derrière, les communautés d'individus ne se retrouvent ni dans l'une ni dans l'autre. Et donc on a vu apparaître une troisième génération de fondations, plus focalisée sur les communautés, même si nous ne nous y trompons pas. Alors, en veillant au bon fonctionnement et à l'épanouissement des communautés, l'objectif de ces fondations est bien, in fine, derrière, d'assurer la bonne marche et le succès des projets, mais ces fondations se focalisent sur les communautés. Et ça donne des positionnements radicalement différents. C'est que, par exemple, ces fondations, typiquement NumFocus, dont je parlais, qui pour moi est vraiment emblématique de ce mouvement, même s'il y en a un certain nombre d'autres, alors elles n'exigent pas des cotisations élevées de leurs membres, mais à contrario, on leur proposer de l'argent, notamment pour les entreprises américaines ou qui peuvent se faire défiscaliser ou même financer des projets. Elle va avoir en retour des exigences sur le fonctionnement ouvert et inclusif du projet. Notamment quand elle finance, elle veut une place au sein du comité de pilotage du projet pour avoir un droit de regard sur tous les aspects et vérifier que l'usage qui est fait de l'argent est sain et que le projet fonctionne sainement. Voilà.
D'accord.
Et oui. Je vais laisser un peu la parole à Benjamin, mais c'est ça.
Ok. Benjamin, Jean, ta réaction là-dessus, ton avis?
Je pense que les premières fondations qui ont été évoquées par Sébastien, c'est elles font aussi face au poids de leur histoire et de leur c'est dur de maintenir dans le temps des projets comme le sont ces fondations-là. Et effectivement, c'est ce qui peut être reproché, c'est-à-dire qu'elles sont moins actives maintenant, moins suivies, moins entendues, et notamment par les plus jeunes générations. Mais le contre-exemple, c'est quand même l'Open Source Initiative qui a l'air de l'intelligence artificielle. En tout cas, essaye de remettre un peu les enjeux éthiques sur le devant de la scène, au travers notamment du rôle qu'ils ont sur la labellisation, certification des licences. Et je trouve ça intéressant parce qu'on n'entendait plus trop parler de l'Open Source Initiative.
Alors, à quoi tu l'attribues? Est-ce que c'est le renouvellement des forces vives au sein de l'Open Source Initiative? Parce que si on compare à la Fondation pour le logiciel libre, dans lequel il n'y a pas de renouvellement de forces vives,
oui.
Est-ce que c'est lié à ça ou c'est lié à autre chose?
Je pense qu'il y avait un besoin, qu'ils ont utilisé ce véhicule, mais ça sert à ça, une fondation ou une structure. Oui, il y avait un besoin, ils ont utilisé ce véhicule pour le couvrir. Et c'était plus facile de le faire dans l'Open Source Initiative que par exemple dans la FSF.
D'accord.
Mais après, j'ai pas une connaissance suffisante. Je connais pas mal d'acteurs qui sont dans l'OSI, donc je vois la facilité que ça a été pour eux de le résoudre dans ce contexte-là. Et ensuite, il y a ces fondations avec des rôles qui varient en fonction du temps. Il y a ensuite effectivement les fondations parapluies qui vont donner une infrastructure juridique qui peut être nécessaire à des projets. Ça, on l'a peut-être pas trop expliqué. C'est-à-dire qu'on a parlé de la gouvernance, donc la manière dont on se structure.
Alors, explique ce que c'est une fondation parapluie.
Une fondation parapluie, c'est une structure généralement de type associatif. C'est plus complexe aux US où il y a plein de types de fondations, mais qui va venir. En fait, qui peut être l'hôte fiscal, donc la structure juridique qui va venir appuyer des projets libres, open source, et qui va au-delà de ça opérer plein de services. La Fondation Linux, qui est la plus grosse, mais de loin, hein, de fois 100, je pense d'ailleurs, la Fondation Eclipse, elle va proposer aussi l'organisation d'événements, de webinaires, donc plein de choses qui font que pour les acteurs qui rentrent dans l'open source ou le logiciel libre, c'est une bonne porte d'entrée et c'est presque un succès garanti pour peu, et là Sébastien l'a dit, qu'on y mette l'argent. C'est-à-dire que c'est des coûts qui sont c'est en millions, très élevé, pour rentrer, et ça leur permet d'avoir une influence très forte. Et c'est là où je... Donc, ces fondations, elles assurent ce rôle de structure, on a besoin d'une structure juridique, elles vont nous l'apporter, et tout le rôle d'animation, d'organisation de la communauté, que les gens ne savent pas forcément faire et qui vont retrouver dans ces fondations. Parfois, on n'a pas besoin de s'appuyer sur ces grosses fondations, et on va avoir des petites structures, des petites fondations, des structures associatives qui vont permettre aussi d'héberger des projets. Moi, je pensais au SGO aussi, qui est très bon dans un domaine, pareil, comme ce qui est donné comme exemple.
C'est quoi ?
OSGO.
Ah.
Tout ce qui est géomatique, en fait, ils sont très, très, très bons dans leur domaine. Et pareil, ils vont sélectionner les projets, les porter. Et bon, je trouve ça très... une vraie utilité d'un point de vue de l'écosystème. Et donc, ils répondent à leur mission. Je pense que c'est une association qui a d'ailleurs, j'ai plus la structure type exacte.
Oui.
Ils vont répondre à leur mission en allant chercher les projets, en les accompagnant. À l'inverse, là où je me méfie plus, c'est des structures. Alors, il ne faudrait pas que je formule comme telle, mais...
direct, oui, tu voilà, risques rien.
C'est ça. Non, mais typiquement, la Fondation Linux, hein, pour la citer, c'est le plus gros succès d'un point de vue fondation industrielle open source. Mais d'un point de vue de la gouvernance, c'est quand même déporter les choix de tous les acteurs sur le territoire américain. C'est-à-dire que globalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des réunions qui sont organisées en fonction des horaires, alors qui prend à peu près en compte les horaires des autres pays, mais à peu près. Il y a énormément d'informels qui se passent en plus du formel. Et les acteurs européens, ou la Chine, c'est un peu différent, ils ont leur propre structure, finalement, sont souvent un peu mis de côté au fur et à mesure. Et moi, ce que je constate, c'est que ces grandes structures parapluies, c'est aussi un risque, parce que c'est facilitant, mais c'est une perte de contrôle de la gouvernance du projet. Et donc ça, on l'a pas forcément suffisamment en tête, parce qu'on voit juste la dimension, on est capable de payer, donc ça va être très facile. Mais en fait, le rôle de ces fondations qui marchent bien, donc c'est plus d'assurer un poids politique pour moi, d'un point de vue vraiment en influence à l'échelle internationale, des acteurs qui en font part. Et on n'a pas aujourd'hui... Alors, la Fondation Eclipse est maintenant une fondation européenne. Voilà. Mais on n'a pas de force aussi importante en Europe. La Chine, pareil, travaille là-dessus. Pareil, je ne veux pas trop compliquer la session d'aujourd'hui avec tous ces sujets-là. Mais au-delà de la question de l'organisation des hommes et des femmes qui participent au projet, la dimension géopolitique derrière les structures juridiques qui les portent, et ça, c'est un sujet qui est énorme. L'Europe s'en rend un petit peu compte, mais pas trop. Il y avait Henri Verdier qui, lors de la présidence de l'Union européenne, l'ambassadeur pour le numérique, avait porté ces sujets d'une fondation pour, alors plus orientée commun numérique, mais on se rapproche de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Et on voit que ça vient tout doucement, là où il y a des budgets colossaux qui sont consacrés outre-Atlantique et en Asie, parce qu'ils ont vu en fait l'intérêt que ça avait.
Alors, on consacrera une émission à ce sujet-là et peut-être qu'on fera un focus sur une des fondations, notamment une fondation qui est basée en Europe, la Document Foundation, qui est derrière LibreOffice, ouais. et le format ouvert Open Document. Là, il est presque 40. Il y a ton voisin Benjamin Jean qui est sur les rails de sa chronique. Je vais vous demander. Alors, je sais que c'est un peu compliqué, mais voilà, sur les deux dernières minutes qui restent chacun. soit de résumer un peu votre présentation, ce qui est impossible, soit de dire des choses que vous aviez envie de répéter ou que vous avez oublié de dire. On va commencer par Sébastien. Donc Sébastien, tu as 2 minutes maximum, s'il te plaît.
Bon, je dirais simplement que l'écosystème, tout ce qu'on vient d'évoquer, montre que l'écosystème du logiciel libre est vraiment très vivant et cherche, parfois à tâtons, à toujours améliorer son fonctionnement, et on retrouve un peu la logique du code dans son organisation. Et c'est très intéressant à suivre, et il faut étudier ça de près au quotidien pour ne pas trop se laisser distancer et pas être surpris des fois de voir émerger de nouveaux modes d'organisation. Ce qui n'est pas toujours évident quand on est depuis un quart de siècle comme moi dans le libre où on croit tout savoir.
Bah écoute, merci Sébastien, tu as fait court en plus. Benjamin Jean.
Et moi, j'avais envie de partager ce que j'aurais pu faire en début d'émission, je n'y ai pas pensé. La référence d'un travail qu'on a réalisé avec plein d'autres acteurs qui nous ont aidés pour ce faire, qui s'appelle Common Model Canvas. En fait, on a cherché à matérialiser, donc à représenter graphiquement notamment, un peu tous les concepts sous-jacents à l'organisation d'une communauté, aux réflexions économiques autour des modèles économiques des projets libres, mais aussi des modèles d'affaires des acteurs qui participent au projet. Et tout ça, on l'a mis sous forme de canevas que chacun peut prendre, remplir, triturer. Tout est diffusé en ligne, c'est sous licence libre aussi.
C'est en français ou en anglais?
C'est en français.
D'accord.
Et en anglais aussi. Mais
on mettra le lien sur, tu m'enverras l'URL, ouais. On mettra le lien sur la page de l'émission.
Et en fait, ça peut être une bonne manière pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets déjà de rentrer un peu en plein dedans, de s'immerger et nous faire des retours, parce que ça se veut participatif. On a commencé à itérer, donc on a plusieurs versions déjà. C'était pour nous une manière de partager aussi ce qu'on faisait et plus largement que ceux des missions qu'on mène. Et ça nous intéresse d'avoir des retours.
Très bien. Bah écoutez, j'espère que les personnes qui nous ont écoutés ont été aussi enchantés que moi, parce que j'ai appris plein de choses. Alors c'est un sujet, comme on le dit, c'était un peu un défi, hein, parce que. Alors je vous renvoie déjà aussi sur l'article de Sébastien, on l'a mis sur le site de l'émission, donc sur libravou.org/205. Bon, il y a plein de sujets différents qui ont été abordés. On refera d'autres émissions, donc l'une notamment sans doute un focus sur une des fondations, donc la fondation qui notamment gère le projet LibreOffice. Et on aura sans doute l'occasion de peut-être faire des focus un peu plus sur des points particuliers, notamment sur les aspects juridiques. Peut-être que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on fera une émission sur, ben justement, par exemple, suite à la condamnation d'Orange, suite à une non-respect d'une des licences diffusives ou à réciprocité, qui a été condamnée récemment, hein, pour n'avoir pas respecté les règles du jeu. Donc, je pense qu'on reviendra sur ce sujet-là dans quelques semaines, dans quelques mois, le temps de savoir si, par exemple, notamment Orange fait appel, pour savoir où on en est juridiquement. Donc voilà. En tout cas, c'était passionnant, avec donc nos invités, donc Sébastien Dino, qui est expert logiciel libre, équipe, outils, alors open source, programme officeur, bon, en gros un petit peu responsable logiciel libre, donc dans l'entreprise de services numériques CS Group, et puis Benjamin Jean qui est fondateur et président d'InnoCube, un cabinet de conseil spécialiste des modèles ouverts. Bah, écoutez, je vous remercie tous les deux et je vous souhaite une belle fin de journée.
Bien merci bientôt. Beaucoup.
Merci.
Alors,
merci.
On va
bonne journée à tous.
Merci Sébastien. On va faire une courte pause musicale. Nous allons donc écouter La fin de Saint-Valéry par Emma et on se retrouve dans 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter la fin de Saint-Valéry par Emma, disponible sous licence Art Libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Vincent Calam, informaticien, libriste et bénévole à l'April, nous propose des chroniques lecture buissonnière, ou comment parler du libre par des chemins, détournés en partageant la lecture d'ouvrages divers et variés. Le thème du jour, la loi de 1901 sur les associations. Bonjour Vincent.
Bonjour. Alors, je ne vais pas permettre à nos auditrices et auditeurs de souffler, parce que je vais aussi leur parler de juridique. Alors, pourquoi ? Parce que, pour rappel, j'avais commencé en janvier la présentation de l'ouvrage « Une histoire des libertés associatives » de Jean-Baptiste Jobard aux éditions Charles-Paul Meyer, dont l'objectif est d'éclairer les luttes actuelles à la lumière de l'histoire longue du mouvement. Alors, nous en étions restés à la révolution de 1848, qui était l'occasion manquée du triomphe de l'associationnisme. Bon, passons le Second Empire, qui n'apporte rien de nouveau dans la répression des associations, et abordons la Troisième République, qui est riche en légalisation. En 1884, reconnaissance des syndicats. En 1898, celle des mutuelles. Et bien sûr, en 1901, celle que nous connaissons tous, la loi sur les associations. En 20 ans, les libertés progressent en France. Alors, enfin, en France métropolitaine s'entend, car dans la même période, la France se taille le deuxième empire colonial de la planète, derrière le Royaume-Uni. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de cette période. Bon, je ferme ici cette parenthèse qui m'éloignerait du sujet, mais il est toujours bon de rappeler que tout n'est pas rose dans notre beau roman national. Donc, revenons donc à notre loi de 1901. J'ai dit que nous la connaissions tous, mais est-ce vraiment le cas ? Jean-Baptiste Jobard ne s'étend pas sur l'histoire de cette loi, mais il nous dit ceci, je cite « Soulignons l'immense intérêt du laconisme législatif, entre guillemets, de Waldeck-Rousseau, l'auteur de la loi, en 1901. Sa loi est facile à lire et elle offre simplement un cadre à des pratiques qui sont largement inventées. Donc je vous propose de répondre à l'invitation de Jean-Baptiste Jobard et nous plonger dans la loi, ce qui au passage nous permet de remplir un peu de frais ma chronique avec quelques copier-coller, et vous trouverez le texte de la loi sur le site de Légifrance. La loi ne fait plus qu'une vingtaine d'articles, hein, beaucoup d'autres ont été abrogés. Et les trois articles fondamentaux sont les articles 1, 2 et 5. Donc je vous les lire, les voici avec des coupes. Alors, article 1, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager les bénéfices. Article 2, les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation, ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles sont conformes aux dispositions de l'article 5. Et article 5, toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable fera connaître le titre et l'objet de l'association, les noms, professions et domicile et nationalité de ceux qui, à titre quelconque, sont chargés de son administration. Et les associations sont tenues de faire connaître, dans les 3 mois, tous les changements survenus dans l'administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leur statut. Voilà. Et voilà, c'est tout. Bon, il y a aussi l'article 6 qui évoque le financement des associations, les articles 10 à 12 sur la déclaration d'utilité publique, mais pour le principal, tout est là dans ce que je viens de vous lire. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose ? À aucun moment, on ne parle de président, de trésorier, de bureau, ni même de conseil d'administration, de représentant légal. On parle juste de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés d'administration de l'association. Tous ces titres auxquels nous sommes habitués, pour peu qu'on soit adhérent de 2 ou 3 associations, ne sont pas des obligations de la loi. Ce sont simplement des usages établis par habitude, par les modèles de statut proposés dont on n'ose pas s'éloigner. C'est aussi une conséquence de la frilosité des banques, des administrations, des bailleurs qui ne veulent voir qu'une seule tête et un seul représentant légal. Il y a donc une grande marge de manœuvre dans l'élaboration des statuts. Je sais que c'est une réflexion qui traverse de nombreuses associations en ce moment. La dernière AG de l'April, la présidence a évoqué un projet de réécriture des statuts de l'April, justement. Je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne sais pas s'il s'agit d'un simple toilettage ou d'une refonte plus en profondeur. En tout cas, lâchez-vous, la loi vous l'autorise.
Est-ce que tu prends prétexte d'une chronique pour essayer d'en savoir plus en public?
Oui, tout à fait. Je prends faillite du direct. On ne peut pas me lâcher, je vais vous retenir. Alors, pour continuer là, sur l'AG de l'April, on plaisante chaque année sur la présence d'une seule liste pour le conseil d'administration qui est élu évidemment à plus de 99% des voix. Un score soviétique. Mais revenons au bel article 1 de la loi de 1901. L'association et les conventions par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leurs activités à un but autre que le partage des bénéfices. C'est une belle définition de dire que l'association est tout simplement une mise en commun des connaissances et des activités. Finalement, quand on y pense, ce serait plutôt la présence de deux listes à l'élection qui serait inquiétante pour l'April ou toute autre association. Ça voudrait dire qu'il y a des enjeux de pouvoir, un trésor de guerre à s'accaparer, une notoriété à détourner pour son propre prestige ou que sais-je encore. Sur quelle base choisir par un bénévole comme moi s'il y avait deux listes? Il faudrait choisir un camp plutôt qu'un autre? Que devient la mise en commun? Je crois que j'irai tout simplement bénévoler ailleurs. Car comme le rappelle l'article 4, tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps. Alors, longue vie à la liste unique du CA de l'April et bon chantier de refonte des statuts. Je refais une couche. Si vous comptez tout remettre à plat, faites quand même appel à un juriste, on ne sait jamais.
Non, le problème, Vincent, c'est que je ne sais pas où trouver un juriste, parce qu'il n'y en a pas autour de cette table, par exemple. S'il y a Benjamin Jean en face de nous. En fait, il n'y a aucun secret sur la révision des statuts de l'April. Il y a deux raisons principales. C'est que la dernière modification des statuts de l'April date de 2005. La première version, c'est 1996. Et il y a beaucoup de termes, tout simplement, qui sont genrés. Parce que comme beaucoup d'associations, on a repris des statuts type, avec un président, un trésorier, un secrétaire. Aujourd'hui, on a une présidente. Hein, au niveau du monde du conseil d'administration, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, il y a une question de rendre les statuts inclusifs pour que toute personne, quel que soit son genre, puisse s'y reconnaître. Et la deuxième chose, comme je le disais, donc les statuts datent de 2005, la dernière version. Il y a des choses qui étaient faisables en 2005 qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité dans le mode de fonctionnement, donc on va en profiter aussi pour toiletter un petit peu cette partie-là. Donc, comme c'est quand même un travail un peu important, ça va prendre quelques semaines, quelques mois. Il y aura donc une assemblée générale extraordinaire qui sera organisée pour modifier ces statuts. Probablement au second semestre 2024, on espère en tout cas. Voilà, donc il n'y a aucun secret là-dessus, donc pas besoin d'être dans le secret des dieux et des déesses. mais tu as bien fait de poser la question. Je regarde mes notes, oui, tout à fait. Donc voilà, donc c'était. Donc tu en as fini avec la lecture de ce livre ou la prochaine?
Non, parce que.
Pas encore, d'accord.
Ben, j'en suis à 1901, et donc comme c'est sur l'histoire, on va, ensuite j'aborderai la période plus récente.
D'accord. Eh bien, donc la prochaine chronique de Vincent, donc sans doute le mois prochain, donc nous sommes en avril, donc en mai 2024, ce sera la poursuite donc de la lecture de ce livre, Une histoire des libertés associatives de Jean-Baptiste Jobard, à moins que l'actualité te pousse, comme à certaines fois, à faire un pas de côté pour aborder un autre sujet. Donc c'était la chronique Les lectures buissonnières de Vincent Calam. Merci Vincent et belle fin de journée. Alors, il nous reste, on approche de la fin de l'émission, on va terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces, Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans les locaux de la radio à Paris, au 22 rue Bernard Dimet, dans le 18e arrondissement. C'est une réunion de radio ouverte, donc ouverte au public, avec apéro participatif à la clé. L'occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. Et donc la prochaine rencontre, soirée rencontre, aura lieu vendredi 5 avril 2024 à partir de 19h30, donc c'est vendredi qui vient. Et je serai normalement présent, donc je vous rappelle l'adresse 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Et normalement, comme chaque premier vendredi, il y a une émission spéciale entre 20h et 21h avec des personnes qui participent aux différentes émissions de Cause Commune. Mais à l'heure actuelle, je ne connais pas la thématique de l'émission du 5 avril. Dans les rendez-vous toujours habituels, chaque premier samedi du mois, de 14h à 18h, des bénévoles passionnés de logiciels libres se retrouvent au carrefour numérique de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris pour une fête d'installation de logiciels libres, ainsi que des ateliers et des conférences. Le prochain rendez-vous, donc qui s'appelle Premier Samedi du Libre, aura lieu samedi 6 avril 2024, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris 19e, donc de 14h à 18h. Le libre, en fait, ce sont des événements de découverte du logiciel libre partout en France. Et dans le cadre du Libre, en fait, 96 événements ont été référencés. Donc on remercie toutes les structures organisatrices de ces événements. Et on remercie, on félicite aussi notre collègue Isabella Vanni qui anime ce projet Libre en Fête. Donc le Libre en Fête se poursuit jusqu'au dimanche 7 avril 2024. Donc il reste encore quelques événements que vous pouvez retrouver sur le site libre-en-fête.net. Et je vous invite à consulter le site de l'agenda du Libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Xavier Berne, Sébastien Dino, Benjamin Jean, Vincent Calame. Aux manettes de la régie aujourd'hui, Étienne Gonu. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Élodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libreavoue.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse bonjour@libreavoue.org. Si vous préférez nous parler, parce que après tout c'est de la radio, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. Alors, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mardi 9 avril, car le studio sera en travaux pour qu'on ait une superbe nouvelle table, une nouvelle disposition. Donc voilà, on se retrouvera en direct mardi 16 avril 2024 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la ville de Boé, qui se trouve dans le sud-ouest de la France, et sa politique sur le logiciel libre. L'émission du 16 avril sera animée par mon collègue Étienne Gonu, qui est actuellement en régie. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 16 avril. Et d'ici là, portez-vous bien.